Bernard Fonoux, donc remplacé au pied levé Samer Amine, qui a été retenu au Caire. Bernard Fonoux est camerounais, il n'est pas burkinabé. Il a été dans la lutte pour l'indépendance du Cameroun, de la lutte pour la libération sociale, pour le développement de la démocratie, démocratie populaire, en plus d'être maintenant, depuis très longtemps, comme je l'ai dit, le compagnon de Samir Amin. Alors je lui laisse la parole, donc lui va parler surtout de la vision de Sankara sur les relations Sud-Nord et les relations Afrique-Europe.
Merci Florian. C'est vrai, hein. Ce problème que je remplace Samir Amin à cette conférence, à ce symposium, à cette ouverture,
Devant.
Oui, il me pose un petit problème. D'abord, il est évident que je ne prétends absolument pas remplacer, même de loin, Samir Amin. Deux, c'est vrai que je suis avec lui depuis très longtemps, mais il n'en reste pas moins que c'est l'une des qualités, disons, de Samir Amin, c'est d'être avec des gens qui ne partagent pas toujours entièrement ses propres vues. Et donc, ce que je vais essayer de dire ce soir, il n'est pas sûr du tout que s'il était là, n'est-ce pas, il serait tout à fait d'accord avec moi sur un certain nombre, une certaine façon de présenter les choses. Alors, et puis, je ne serai peut-être pas très fidèle au titre que j'avais proposé, parce que ce dont je voudrais personnellement attirer l'attention ce soir, c'est que Sankara, c'était avant la lettre un vrai altermondiste. C'est-à-dire, c'est pas, bon, bien sûr, il est burkinabé, bien sûr, tout ce que vous voulez, mais je pense que la manière, n'est-ce pas, dont il voyait le monde à l'époque, c'est sûr qu'il était loin d'être satisfait par ce qui existait et que son ambition, c'était, n'est-ce pas, précisément de faire autre chose. Ma propre lecture de la période où nous nous situons aujourd'hui par rapport à la résistance et aux propositions que nous avons faites dans le cadre de la lutte altermondiste, c'est que, à mon avis, n'est-ce pas, le néolibéralisme, on peut l'appeler de n'importe quel nom, mais ça ne signifie pas grand-chose de dire néolibéralisme, mais en tout cas, ce système capitaliste qui s'est donné vraiment le label d'un système sauvage. Bon, pour l'essentiel, je pense qu'aujourd'hui, il a gagné. Il a gagné la première phase, la bataille, en ce sens qu'il est aujourd'hui plus ou moins installé. N'est-ce pas? Il est aujourd'hui plus ou moins installé, malgré beaucoup le fait que nous avons résisté beaucoup. Mais, et je pense que c'est ici que l'une des devises de Sankara, je crois, peut nous aider, c'est que ce n'est pas en fait la patrie ou la mort. Je ne sais pas où est-ce qu'il est allé chercher ce truc de patrie ou la mort, parce que ce qu'il a fait, ce n'était pas le problème de la patrie ou de la mort. Mais il y a d'autres conférences auxquelles il a donné, par exemple, le titre qui revenait par lutter. N'est-ce pas, lutter pour exister. Ça, oui. C'est-à-dire, je crois que vraiment, son idée, c'était qu'on existe dans ce monde qu'en luttant. N'est-ce pas? Et donc, je pense que ça est lutter pour quoi? Lutter pour la justice, lutter pour la liberté, lutter pour la souveraineté, n'est-ce pas? Et lutter pour le progrès social. Donc, C'est sur ce problème, n'est-ce pas, de l'importance de la justice, de la lutte pour la justice, qu'il y a dans le message de Sankara, et aussi dans le type d'action qu'il a mené, n'est-ce pas. Je crois que son ambition, c'était donc à la fois de faire en sorte que la pauvreté dans nos sociétés, dans les sociétés africaines et peut-être ailleurs aussi, puisse être un souvenir, n'est-ce pas ? Non pas quelque chose qu'on entretient, non pas quelque chose comme on se fixe dans un monde où on se fixe comme objectif, que dans 15 ans, n'est-ce pas, on voudrait avoir diminué dans 15 ans de moitié la pauvreté abjecte. Le projet de Sankara, ce n'est pas de diminuer de 15% ou de la moitié. C'est de créer à la fois, n'est-ce pas, un système, c'est de créer un système mondial dans lequel il y a un processus donc d'élimination de la pauvreté et aussi de réduction des inégalités. Et donc, je crois que c'est cela. Et à mon avis, je pense que si le mouvement altermondiste veut continuer réellement à se battre contre le système qui s'est installé, c'est très important de considérer que aujourd'hui, il faut se battre sur le front social et de manière très sérieuse. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le système, il nous propose un certain type, une certaine conception du travail, il nous propose une certaine conception de l'insécurité sociale dans laquelle il faudrait s'installer. Et je crois que c'est très important qu'on dise non. On ne veut pas de ce système. Au niveau du travail, aujourd'hui, d'après les statistiques du BIT, n'est-ce pas, il y a à peu près 80%, c'est-à-dire 80% de personnes, de gens qui travaillent aujourd'hui, le BIT considère qu'ils font du travail qui est considéré comme indécent. C'est-à-dire, n'est-ce pas, c'est le travail précaire, c'est le travail donc avec des contrats de travail de durée tout à fait indéterminé, de manière à pouvoir mettre facilement les gens dehors. C'est du travail dangereux, souvent, sans qu'il y ait des précautions pour éviter le niveau réellement de la dangerosité du travail. Et c'est aussi du travail très souvent mal rémunéré. Et ils vont juste assez loin pour utiliser, n'est-ce pas, ce terme de « working poor » qui existe aux États-Unis, c'est-à-dire, n'est-ce pas, des gens qui travaillent, mais qui travaillent à plein temps, parfois, ils font même des heures supplémentaires, mais vivent dans la pauvreté. Alors, je crois que ce système-là, nous devons pouvoir nous organiser pour dire que ça, on ne peut pas l'accepter au niveau du travail. Qu'au niveau de la sécurité sociale, ce que le système propose et sur lequel il veut légiférer, c'est l'insécurité. C'est-à-dire, il considère qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il faut que les travailleurs vivent dans l'insécurité pour pouvoir continuer à travailler. Et évidemment, ce n'est pas acceptable. Et dans les pays comme les nôtres, on ne parle jamais de sécurité sociale. N'est-ce pas ? On dit, il faut faire l'ajustement structurel, il faut faire un filet de sécurité. N'est-ce pas ? Il faut faire un filet de sécurité. Il faut lutter contre la pauvreté, qu'ils sont incapables de définir correctement. Mais ils ne disent jamais, n'est-ce pas, il faut assurer les gens contre des risques de la vie. qu'il faut assurer un système. Il faut, par exemple, au niveau de l'éducation. Sankara, n'est-ce pas, il disait quand il a pris le pouvoir au Burkina Faso, le taux de scolarisation dans ce pays-là était de 20%. Alors, mais la Banque mondiale va venir faire l'ajustement. Mais ne dit-vous, il ne dira jamais. N'est-ce pas qu'il faut, on ne peut pas, au 21e siècle, n'est-ce pas, avoir un pays où vous n'avez pas la scolarité à 100%. Ça n'a pas de sens. Mais on va abriter cela contre des trucs de pauvreté. Oui, vous êtes pauvre, donc vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire que vraiment il faut avoir la scolarité pour tout le monde et tout ça. Le droit au logement, n'est-ce pas, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir exiger dans toutes les sociétés. Et chez nous, le problème surtout du droit, n'est-ce pas, d'avoir un logement correct, c'est-à-dire bien construit et bien équipé, en milieu rural, c'est crucial. Parce que c'est un des meilleurs moyens de réduire l'exode rural. Il faut pouvoir créer les conditions pour que les paysans restent autant que possible en milieu rural. Et donc, pour cela, il faut non seulement que les prix des produits agricoles soient corrects, il faut non seulement que la production agricole soit subventionnée, il faut non seulement qu'il y ait le protectionnisme vis-à-vis de la production rurale, mais il faut aussi que les ruraux puissent, n'est-ce pas, vivre de manière correcte, tant au niveau du logement que du problème de la santé ou de problème de la scolarisation. Donc, c'est, je pense que donc demander qu'il y ait une sécurité sociale à ce niveau-là, c'est extrêmement important. Alors, on nous dit, mais tout ça, ça sonne un peu démagogique. Comment est-ce que vous n'avez pas vos économies, n'est-ce pas, ne sont pas suffisamment développées pour que vous puissiez financer toutes ces activités? Mais là, qu'est-ce que Sankara nous dit? Sankara nous dit, mais il faut, premièrement, mettre devant la dignité humaine. Décidez d'abord que l'homme doit vivre dans la dignité. Et ensuite, vous poserez la question de financement. Et ensuite, s'agissant de nous, n'est-ce pas, effectivement, qui avons peu de moyens, il faut que la répartition du produit national, et il faut que notre modèle de consommation permette précisément d'atteindre cet objectif de la dignité pour tous. Et dans tous les pays, vous savez, en Afrique, quand on l'argument de la pauvreté, mais moi ça me fait toujours sauter jusqu'au ciel. Parce que, d'abord, en ce qui concerne les richesses, n'est-ce pas, qui sont puisées dans le sol, dans le sous-sol et tout ça, bon, il y en a, en grande quantité, et c'est extrait effectivement, et c'est, donc il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sort de l'Afrique. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, de question de pauvreté intrinsèque. Ensuite, lorsque vous regardez, n'est-ce pas, le train de vie des Africains privilégiés, mais vous voyez que vous cherchez la pauvreté, vous ne la trouvez pas. Donc, lorsque, n'est-ce pas, au niveau, disons, des médias occidentaux, disons, pour essayer d'apitoyer un peu le citoyen et tout ça, on lui montre, si on veut lui montrer le Sahel, n'est-ce pas, on va lui montrer la sécheresse, on va lui montrer le paysan qui est là-bas, qui est famélique, on va lui montrer avec ses bœufs qui meurent. Mais on évite de montrer parallèlement, n'est-ce pas, et dans le même pays, n'est-ce pas, ce système d'apartheid qui s'est installé. Donc, il n'y a pas, n'est-ce pas, il n'y a pas les arguments selon lesquels, si on ne veut pas réaliser certaines choses, c'est parce que on est à cause de la pauvreté. Je crois personnellement que ça, c'est un argument que Sankara avait rejeté en son temps. Mais il avait rejeté sans être naïf sur le problème de l'apport extérieur. Parce que, n'est-ce pas, l'un des arguments de la pauvreté, quand on sort que les gens sont pauvres, on court immédiatement, n'est-ce pas, c'est-à-dire on déduit de là que donc il faudrait un apport extérieur. Puisque, n'est-ce pas, les gens ne peuvent pas. Et cet apport extérieur, il ne vient pas. Il ne vient pas. Parce que l'apport extérieur, il va vers là où c'est rentable. Et en ce qui concerne chez nous, par exemple, la question des ressources minières, les ressources pétrolières, là, il n'y a aucun problème. De toutes les façons, l'extérieur, il vient de lui-même. Et même si vous vous opposez, même si vous vous opposez, on vous renverse. N'est-ce pas? Si vous dites non. Si vous dites, ce pétrole-là, moi, il est là, oui, d'accord, mais je ne veux pas l'exploiter tout de suite. On va vous dire, alors, il faut dégager. On va mettre quelqu'un, n'est-ce pas, qui va nous laisser prendre. Donc, la question de l'orientation de ressources extérieures vers les régions qui en ont le plus besoin, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas tout simplement. Donc, nous ne pouvons pas du tout compter sur l'apport extérieur, j'allais dire, n'est-ce pas, l'apport extérieur des gouvernements ou de multinationales. C'est un peu se leurrer. Et peut-être l'un des points par lesquels je voudrais terminer, c'est que l'approche que Sankara avait adoptée pour appréhender nos problèmes, c'était de partir du présent. De partir du présent, de passer à l'avenir, au futur, et éventuellement de revenir au passé. Son point de départ n'était pas le passé. Contrairement à beaucoup de choses qu'on voit en Afrique, la bête noire de Sankara, c'est le néocolonialisme. Voilà sa bête noire. Et le néocolonialisme, n'est-ce pas, c'est la forme la plus élémentaire de l'impérialisme. Mais son originalité, c'est de toujours insister sur le fait que la continuation de la domination extérieure n'est là que parce que il y a de la connivence interne. Et cette connivence interne, il ne se contente pas de le dire comme ça, là. Il nomme. Et il a la dent très dure vis-à-vis de ce qu'il appelle les rapports féodaux. Les rapports féodaux en Afrique. Et les rapports féodaux, ça veut dire, n'est-ce pas, toute cette hiérarchie, n'est-ce pas, de type de rapports de domination plus ou moins visibles, n'est-ce pas, que certains Africains revendiquent comme faisant partie de leur culture, alors qu'ils n'ont même pas une idée. Ils ne connaissent même pas l'histoire de cette culture. Eux, ils pensent que ça a été toujours comme ça. Alors qu'il y a, n'est-ce pas, certains éléments de culture qui sont là même pas depuis 200 ans, parfois même ceux qui sont nés avec la colonisation. Donc, alors, son idée, donc, son attaque, c'est contre le néocolonialisme, parce qu'il dit, mais bien sûr, il dit, mais pour en sortir? Pour sortir du néocolonialisme, il faut se placer dans une perspective qui, même s'il ne le dit pas très clairement quand on analyse ces textes, C'est une perspective socialiste. Bon, cette perspective socialiste, on peut la qualifier, on peut faire un certain nombre de commentaires, mais l'idée fondamentale pour lui, n'est-ce pas, dans le socialisme, c'est la partie fondamentale, c'est la partie de la justice. C'est la partie de la justice sociale, c'est le fait qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, des gens qui vivent dans de l'or et d'autres, n'est-ce pas, qui vivent dans des... qui doivent faire le système D. Donc, alors, je pense que cet aspect-là, n'est-ce pas, de son message, c'est très important. Et lorsque, maintenant, il se tourne un tout petit peu vers le passé, pour essayer de comprendre, il dit le passé c'est quoi ? Le passé, regardons comment s'est passée la libération de l'Afrique. Pendant la lutte de la libération, il n'y avait pas que la libération. Il y avait deux éléments. Il y avait d'un côté la libération que les Africains voulaient, mais il y avait de l'extérieur la décolonisation. Et la décolonisation conçue à Paris ou à Londres, ça voulait dire qu'il n'est pas question que les Africains deviennent indépendants. Vous luttez pour l'indépendance, mais nous, ce qu'on cherche, c'est la décolonisation. Ça veut dire que ce que nous voulons, c'est trouver parmi vous, n'est-ce pas, des gens avec lesquels le système ancien va continuer. Et précisément, n'est-ce pas, en grande partie, c'est à ce résultat qu'ils sont arrivés. Et c'est cela qui explique les révoltes, n'est-ce pas, des Sankara et des autres. En disant non, non, ça, c'est pas ça qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'est une réelle indépendance. Et si vous avez fait un film sur lui et Mitterrand et tout ça, c'est parce que malheureusement, pour lui quand il était au pouvoir, il voyait, ils étaient là. C'est-à-dire les néocoloniaux, ils étaient là. Ils passaient tout le temps. Et ils comprenaient ce qu'il et il lui demandait de cesser de faire la révolution. Donc, je crois que cette façon de parler... Mais, et là, c'est vraiment par là que j'ai fini. Vous savez, on lui a posé la question sur le problème du français comme langue. Bon, il a répondu, il a dit que de toutes les façons, l'histoire, ce n'est pas quelque chose qu'on remonte. Vous faites l'histoire avec dont vous disposez, et vous vous inspirez aussi de ce qui a été fait ailleurs. C'est pour ça qu'il dit très clairement, moi je m'inspire de la révolution américaine, je m'inspire de la révolution française, je m'inspire de la révolution d'octobre, donc je n'ai pas de complexe du tout, n'est-ce pas, en ce qui concerne, je ne prétends pas avoir le monopole de quelque chose. Bon, donc il dit pour le français, ce qu'il reproche aux Français, fondamentalement, ça veut dire à la France, c'est de considérer qu'il y a une sorte de Français comme ça, n'est-ce pas, qu'on parle à Paris, et qui est plus ou moins la propriété des Français, et que les Français, n'est-ce pas, veulent voir reproduire partout. Alors que non, il dit, le français, effectivement, aujourd'hui, c'est une langue qui nous permet à nous, Burkinabés, nous, Africains, de communiquer au-delà de nos propres communautés. Mais ce que nous voulons, mais c'est un français qui est à nous. C'est un français dans lequel nous mettons, n'est-ce pas, un certain nombre de choses qui sont de notre propre culture. Nous ne sommes pas là pour reproduire... Le français de Paris. Et donc, et c'est pour cela qu'il s'est montré, il a une langue, une dent assez dure contre les intellectuels africains. Parce qu'il dit que pour une grande partie, ce sont des gens qui répètent trop. Ils répètent. Ils vont à la Sorbonne, ils vont à Harvard, ils apprennent un certain nombre de choses. Et ils viennent aussi, on leur dit que c'était comme ça, ils répètent. Alors, donc, il dit que non, c'est pas ça. Il dit, c'est pas sérieux. Et il dit, mais les gens de la Banque mondiale, quand ils viennent ici, ils me parlent d'une certaine façon et moi, je refuse. Je leur dis non. Si c'est ça que vous voulez pour le Burkina, je refuse. Mais il me dit, mais si un économiste burkinabé vient me tenir le discours de la Banque mondiale, bien évidemment, je ne peux pas être d'accord avec lui, même s'il est burkinabé. Donc, il est très, donc il considère, n'est-ce pas, que c'est très, 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 très important que les intellectuels africains, premièrement, vraiment s'imprègnent davantage de leur propre société, réellement, et que, ensuite, n'est-ce pas, même s'ils parlent des langues étrangères, ils puissent, même s'ils ont, qu'ils puissent l'approprier. Dernier mot, monsieur le président, mais vraiment dernier, parce qu'il a parlé aussi un peu de, il a parlé aussi des ONG. Il n'était pas satisfait, du tout. Alors, et là, il n'a absolument pas mis tous les ONG dans le même sac, hein, du tout. Il a considéré que parmi elles, il y en a qui sont sérieuses et qui veulent vraiment faire quelque chose de positif. Mais il dit que c'est aussi truffé, n'est-ce pas, de certains types d'ONG est très, 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 très difficile à connaître un tout petit peu réellement, quoi. Est-ce qu'ils sont là réellement pour quelque chose? Est-ce qu'ils sont là en rapport avec leur gouvernement? Est-ce qu'ils sont là en rapport avec les services de leur pays? Il faut être vigilant. Et là, c'est par ça que j'avais terminé, parce que moi, je pense que Sankara, c'était aussi de dire il faut être vigilant. Sans vigilance, c'est la défaite, garantie. Donc, il faut être vigilant. Merci.